Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, 28 ans jour pour jour après la chute du mur de Berlin, nous vous proposons de revenir sur cet événement géopolitique majeur, le plus important de l'après-guerre en Europe. Il s'inscrit dans la liste très courte, exceptionnelle, des épisodes fondateurs de l'histoire, de ceux qui ont changé l'ordre du monde. Ce jour-là, en fin d'après-midi, à la rédaction de France Inter, tombe une dépêche ainsi rédigée. Les gardes-frontières ont ouvert une brèche dans le mur de Berlin. Une phrase on ne peut plus sibylline et imprécise pour annoncer, en fait, l'événement le plus important depuis 54 ans. Immédiatement, le directeur de la rédaction, Yvan Levaille, à l'époque, envoyait 4 jeunes reporters, leur disant tout simplement « Louez une voiture et partez à Berlin. Faites-nous vivre la nuit qui s'annonce, elle sera mémorable. » Vu de l'Ouest, et c'est bien ce qu'on ressentait à l'époque, la chute du mur ne pouvait être que le résultat du soulèvement de tout un peuple pour sa liberté, avec la complicité du grand frère soviétique contre le pouvoir en place à Berlin. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus l'entière réalité, non. La réalité est plus prosaïque. Comme l'explique le journaliste Michel Meyer, ce ne sont pas les forces irrésistibles de la démocratie qui ont remporté le mur de Berlin, mais un plan visant à assurer la survie de l'Union soviétique. Plan qui a conduit à l'autodissolution, par inadvertance, oui, de l'État est-allemand. Ce jugement paraît sévère, mais une exploration fouillée des coulisses de l'événement en confirme la pertinence. C'est à cette exploration que nous vous convions aujourd'hui, et pour 2 jours, car demain, nous vous proposerons une fiction qui racontera l'histoire d'un jeune Allemand de Berlin-Est, prisonnier de la Stasi, qui a vécu l'événement dans sa cellule, et qui comprend, évidemment, que la fin de son calvaire arrive. Notre invité aujourd'hui, Michel Meyer, donc journaliste, auteur de l'ouvrage « Histoire secrète de la chute du mur de Berlin », paru le 1er octobre 2014 aux éditions Odile Jacob. Vous entendrez également le reportage de Gellert van Wimersch, qui s'est rendu à Berlin en octobre 2014. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carra, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
I know that over the years, many of you have seen the pictures and news clips of the wall that divides Berlin. That's why I urge the Soviet leader, Mr. Gorbachev, to send a new signal of openness to the world by tearing down that wall.
Au sujet de l'affaire de Berlin, je vais vous demander de renouveler votre question et j'y répondrai.
En Allemagne de l'Est, pour l'instant, les manifestations grossissent.
La foule s'est épaissie, les gens sont sortis des maisons et se sont joints au cortège. Ils sont déjà plus de 100 000.
Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle.
Jadis meilleur élève économique du pacte de Varsovie et leader technologique des républiques socialistes, la République démocratique allemande n'est plus depuis des années que l'ombre d'elle-même. Au milieu des années 80, elle est même au bord du gouffre. Les caisses sont vides et le régime est en disgrâce. Plusieurs rapports secrets commandés par le Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, le SED, confirment que sans réforme radicale, la RDA court vers la banqueroute. C'est simple, en Allemagne de l'Est, en ce début d'année 89, on manque de tout, d'essence, de gaz, de fruits, de légumes. On est bien loin du niveau de vie des voisins allemands de l'Ouest. Pourtant, malgré cette situation catastrophique, le secrétaire général du parti aux commandes de la RDA, Erich Honecker, un apparatchik incurable, continue depuis 18 ans d'entretenir une ligne idéologique dure, stalinienne, faisant de la RDA un état policier, un état prison. Parce que dans Allemagne de l'Est, il y a Allemagne, les dirigeants de la RDA, de Walter Ulbricht jusqu'à Erich Honecker, considéraient que ce pays socialiste avait un rang à tenir parmi l'ensemble des États satellites de l'URSS. Et ce rang ne pouvait être que le premier, d'où les excès de zèle de l'État policier, une sorte de maître étalon du concept de dictature bureaucratique. Et comme d'habitude, c'est sur la propagande, arme de persuasion massive dans les états de cette espèce, que le pouvoir de Berlin-Est s'appuie.
Le mur de Berlin, le mur de la honte.
Wall that divides Berlin.
Situé au cœur de l'Europe, Berlin est le centre politique, économique et culturel de la République démocratique allemande. Que ce soit par voie ferrée, par l'eau, par la route, par voie aérienne, la capitale est un important carrefour pour le transport. Année après année, Berlin attire des millions de visiteurs. Mais la ville n'est pas seulement une attraction touristique. Berlin est également la ville de l'industrie, des arts et du sport. Mais surtout, Berlin, c'est la capitale.
En vérité, l'Allemagne de l'Est est un état-prison où vivent 16 millions de personnes détenues dans leur propre pays, où tout le monde est surveillé à la demande d'un état paranoïaque dont le bras armé porte un nom qui aujourd'hui encore fait frémir, la Stasi. Dirigé depuis 32 ans par Erich Milke, un proche d'Erich Honecker, omniprésente dans tous les organes de la RDA, elle est aussi infiltrée dans tous les rouages administratifs du voisin ouest allemand. C'est un organe d'espionnage extérieur et intérieur. C'est la police politique par excellence, un modèle du genre. Arrestations arbitraires, écoutes téléphoniques, filtrage du courrier, menaces et violences, tout est bon pour arriver à savoir ce qui doit être su. C'est un rôle que ces 91 000 fonctionnaires exercent avec frénésie. Rendez-vous compte, il y avait en 1989 en RDA autant de policiers qu'en France pour un pays qui comptait trois fois moins d'habitants. Résultat, souffrance, injustice et plaies encore douloureuses aujourd'hui, comme l'atteste le témoignage de cette berlinoise, Ingrid.
Je me rappelle qu'un soir, alors que nous rentrions du théâtre, il y avait deux policiers en civil en bas de notre immeuble. En montant, nous sommes tombés nez à nez avec cinq hommes en combinaison qui sortaient de notre appartement. Au début, ils nous ont dit qu'ils étaient venus faire une vérification pour le gaz et que tout semblait correct. On savait que ces hommes devaient être de la Stasi. La vérité, on ne l'a su que bien plus tard, lorsque les archives de la police ont été ouvertes. Il existait alors un dossier sur mon époux et moi, numéro 792-468-H. Six classeurs, 2000 pages rédigées par 52 agents, des copies de notre courrier, des retranscriptions de nos appels passés au téléphone, les écrits des écoutes réalisées chez nous, le parcours de nos déplacements, le prix des achats semaine après semaine au magasin. C'est bien simple, j'avais l'impression qu'ils en savaient même plus que moi sur notre propre vie. Mais le plus fou, c'est que durant tout ce temps, nous ne nous sommes jamais rendus compte qu'ils étaient là.
Vivre en Allemagne de l'Est en 1989, c'est vivre dans la vitrine du socialisme, mais c'est surtout être isolé, séparé souvent de sa famille et de ses amis qui, eux, vivent en RFA de l'autre côté du mur. Cette enceinte perverse, symbole d'oppression, ici comme ailleurs. C'était en 1961. En août de cette année-là, et pour enrayer la fuite de ses habitants vers l'Ouest, le régime est-allemand décide de séparer physiquement la ville de Berlin. Et n'y va pas avec le dos de la cuillère. D'une longueur de 43 km dans sa partie urbaine et d'une hauteur de 3,60 m, le mur est équipé de barbelés, projecteurs et miradors, sous la surveillance 24 heures sur 24 de 1000 gardes armés jusqu'aux dents et de chiens qui, à la moindre alerte, montrent les dents. Et puis un jour, le mur, surnommé très justement le mur de la honte, est tombé. Oh, pas du jour au lendemain, non. La route de la liberté commence en fait en Hongrie, le 3 mai 1989, où l'impensable se produit. Le nouveau gouvernement réformiste de Budapest décide de couper les barbelés du rideau de fer sur sa frontière avec l'Autriche. Jacques Expert, envoyé spécial de France Inter, est sur place. Il raconte.
Une brèche de 300 mètres est déjà ouverte. Pince Monseigneur en main, des soldats se sont attaqués dès hier matin aux deux rangées de grillages de 2 mètres de hauteur, tandis que des tracteurs arrachaient un à un les piquets de béton enfoncés d'un mètre dans le sol et que d'autres soldats récupéraient en les enroulant autour de bâtons les fils électriques dont le simple contact alertait les gardes frontières. La destruction des 260 km de frontières durera 18 mois, mais pour ce premier jour, l'événement avait attiré des journalistes du monde entier qui ont pu ramener en souvenir un petit morceau de fil de fer barbelé. Seuls étaient absents les représentants de la presse de l'Est. L'événement était d'importance pour les autorités hongroises qui n'ont eu de cesse de rappeler que ces installations mises en service en 1965 à la place d'un champ de mine, était historiquement, politiquement et techniquement dépassé.
des centaines d'Est-Allemands, ceux qu'on appelle les hosties, alors en vacances près du lac Balaton, en Hongrie, se précipitent avec ce qu'ils ont sur eux pour passer la frontière. En RDA, on fulmine et on convoque le ministre des Affaires étrangères hongrois à Berlin pour qu'il s'explique. Trop tard, une brèche vient d'être creusée dans le rideau de fer. Deux semaines plus tard, élection municipale en RDA. Pas de candidat indépendant, des fraudes, bien entendu, et un score pour le parti unique, le SED, qui n'étonne personne. Egon Krenz, numéro 2 du régime alors, annonce les résultats. C'est un extrait du documentaire « Le dos au mur » de Philippe Colli, Maurice Najman et Richard Puech.
Les élections municipales ont donné lieu à un vote massif pour les candidats du Front National de RDA. Pour le Front National de la République démocratique allemande, ont voté 12 182.050 électeurs, soit 98,85% des suffrages.
98,85%, une nouvelle victoire à la Pyrrhus pour le régime Honecker, mais une victoire volée qui va se traduire cette fois par le début d'un mouvement de contestation globale dans toute la RDA. Car s'il y a quelques semaines encore, il n'était que quelques centaines à battre le pavé pour dénoncer l'oppression du régime et le manque de liberté, désormais, ils sont plusieurs dizaines de milliers à demander des comptes au chef du parti communiste. Et sur l'Alexanderplatz, lieu d'agora à Berlin-Est, malgré le régime de terreur et la main de la Stasi, on conteste, oui, on ose contester.
Liberté de voyage, liberté de voyage, liberté de voyage, liberté de voyage, liberté de voyage. Dehors la Stasi, dehors la Stasi.
Même scénario à Dresde et Leipzig, où les manifestants demandent plus de liberté, surtout le droit de voyager. Ceux qui défilent sont majoritairement des jeunes. Ils ont entre 20 et 30 ans, adeptes de contre-culture et de rock'n'roll, qu'ils entendent parfois lors des concerts géants donnés dans la partie ouest de la ville. Leur objectif n'est pas la destruction du régime communiste. Non, inspirés par les réformes de Gorbatchev en URSS, ils veulent que la RDA s'inscrive dans ce mouvement réformateur. Au début de l'été 1989, nombreux sont les Allemands de l'Est qui passent leurs vacances en Hongrie. Des vacances? Pas vraiment, car ils se souviennent de l'épisode de la brèche dans les rideaux de fer quelques semaines plus tôt. Ils sont donc là pour une raison précise, passer à l'Ouest. Et on retrouve ici des familles entières. Témoignage d'un jeune Est-Allemand qui fuit.
Sie können jetzt versprechen, was Sie wollen. Wir glauben an nichts mehr, was die Kommunisten uns versprechen.
On ne croit plus aux promesses communistes.
C'est vorbei.
Terminé.
4,5 Jahre haben sie uns hingehalten und immer wieder hingehalten und
ça fait trop longtemps que ça dure.
Verschaukelt.
Ils nous mènent en bateau.
Wir sind unmündig.
En quelques semaines, ce sont plus de 25 000 personnes qui vont ainsi traverser le rideau de fer sans tenaille, sans ramper, debout, en plein jour. Vers la fin de l'été, à Prague, Varsovie et Berlin, on assiste au même scénario. Des milliers d'Allemands de l'Est prennent d'assaut les ambassades de RFA pour s'y réfugier et demander l'asile politique. À Bonn, Helmut Kohl exhorte Erich Honecker à lâcher du lest et accepter l'aide de l'Allemagne fédérale pour rapatrier ces réfugiés. Les jours passent, les négociations piétinent, bien sûr. Quand finalement, début septembre, Berlin-Est consent à laisser passer à l'ouest des milliers d'Est-Allemands réfugiés dans les ambassades de la RFA. Dépêché à Prague, le secrétaire général de la chancellerie de la RFA, Rudolf Seiters, vient annoncer la nouvelle aux réfugiés.
Ce soir, nous sommes venus vous annoncer que votre autorisation de sortie de RDA a été accordée.
Des cris de joie, des rires, des pleurs, c'est la libération. Dans les heures qui suivent, tous ces citoyens est-allemands prennent place à bord des premiers trains de la liberté affrétés par la compagnie des chemins de fer de l'Est. Les autorités de la RDA parlent de gestes humanitaires. En réalité, c'est un affront pour Erich Honecker qui qualifie ces personnes de traîtres à la nation allemande. À Moscou, où l'on suit la situation de très près et les remous provoqués par l'épisode des ambassades, on va pousser le KGB à exécuter un plan secret pour faire chuter Erich Honecker. À Moscou, depuis 1985, le numéro 1 soviétique Mikhail Gorbatchev a engagé l'État soviétique dans une série de réformes profondes. La fameuse perestroïka, qui veut dire reconstruction, et la non moins fameuse glasnost, qui veut dire transparence. Fini donc les interventions de l'armée du pacte de Varsovie aux quatre coins d'une Europe communiste qui oserait contester. Au contraire, Gorbatchev supporte de moins en moins ces potentats des pays de l'Est, ces staliniens pétrifiés dans leur aveuglement idéologique. Ils vont à contre-courant de ces réformes. Dans le genre, Honecker est un sérieux client, une caricature, un monstre froid, un communiste irrécupérable, comme en témoigne l'un de ses derniers discours.
Pour nous, communistes, le mot d'ordre demeure travail, pain et paix entre les peuples. Voilà notre monde. Résumé par ce cri de bataille pour notre camarade Ernst Hallmann, levons le poing.
Corseté dans sa dialectique simpliste, Honecker ne sait pas qu'à Moscou, le Kremlin et le KGB organisent sa chute. C'est l'opération Lutsch. L'idée est simple. Il s'agit de remplacer les dirigeants poussiéreux des RDA par des réformateurs gorbatcheviens. On met alors sur orbite un tandem de réformistes composé de Hans Modrow et de Markus Wolf, l'ancien chef de la Stasi. Egon Krenz, le numéro 2 du régime, lui doit tuer politiquement et symboliquement Honecker. Mais en aucun cas, il n'est question que le mur tombe, même si les nouvelles réformes doivent donner aux Allemands de l'Est plus de liberté, et parmi elles, la liberté de voyager. Les mois passent quand soudain les événements s'accélèrent à Berlin en cet automne 1989. Ils obligent le KGB à passer à l'action beaucoup plus tôt que prévu. C'est que dans l'Allemagne de l'Est, le début d'automne est très agité. Le mouvement de contestation berlinois fait tache d'huile. Leipzig, Dresde en manifeste toujours pour les mêmes raisons. En octobre, on s'apprête à fêter à Berlin le 40e anniversaire de la RDA. Longtemps hésitant, Mikhail Gorbatchev vient à Berlin pour l'occasion et surtout pour convaincre une dernière fois Honecker de réformer son pays. À sa descente d'avion, la fameuse bise à la russe se transforme en un baiser de la mort. Celui qu'on acclame dans les rues, c'est Mikhaïl Gorbatchev, pas Honecker, qui ce jour-là a les lèvres plus pincées que jamais, très mal à l'aise aux côtés du numéro 1 soviétique qui déroule son discours.
Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Le danger ne guette que ceux qui ne savent pas réagir à la vie.
А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику,
celui qui sait prendre à temps le pouls de la société et adapter sa politique.
Кого трудности не должны пугать.
Это ne redoute pas les difficultés, elles lui paraissent normales.
Pour Honecker, c'est l'horreur. Les défilés bien surveillés, bien organisés auxquels on assiste à Berlin-Est chaque année pour l'anniversaire de la RDA tournent à la contestation sociale. Alors, le dirigeant communiste se lance dans un long discours à la gloire du régime, de la patrie de Marx et de Engels et des vertus du système communiste. On connaît la musique. Chef d'État, Honecker, non, chef de bande. Il n'a décidément rien compris. Il ne veut rien comprendre. Mikhaïl Gorbatchev saisit alors qu'il ne peut plus rien y faire et il précipite son retour. Dans l'avion qui le ramène à Moscou, il prend sa décision. La meilleure solution pour désavouer Erich Honecker, c'est de donner le champ libre à Egon Krenz en lui promettant le soutien de Moscou pour la suite. Au sein du bureau politique à Berlin, Egon Krenz, un homme très ambitieux, se rapproche de Günther Schabowski, le patron du parti communiste de la capitale est-allemande. Les deux ont le même objectif, déposer Honecker. C'est chose faite le 18 octobre. Le soir même, la télévision est-allemande annonce la nouvelle.
Egon Krenz est le nouveau secrétaire général du parti. Il a été élu cet après-midi. Le comité central a accepté qu'à sa demande, Erich Honecker soit libéré de ses fonctions en raison de son état de santé. Il a été chaleureusement remercié pour son œuvre politique.
J'aimerais dire en ce moment que beaucoup de travail nous attend. Du travail, et encore du travail.
Mais pour la population, ce changement de dirigeant ne compte pas. Elle en a vu défiler au pouvoir, tous les mêmes, alors Krenz ou un autre. La rue ne se fait guère d'illusions. Et les manifestations continuent à Berlin, où tous les soirs on se réunit par dizaines de milliers pour protester encore et encore, car il ne faut pas lâcher prise. Et la situation devient très critique pour Egon Krenz et ses alliés.
Solange diese alten Politiker dort oben sitzen, solange ein Honecker, ein Egon Krenz dort oben sitzt,
tant que ces vieux politiciens sont là, tant qu'Egon Krenz sera là, ou un Milke, tant qu'ils seront là, rien ne bougera.
Solange die dort oben sitzen, diese alten
tant que ces dinosaures seront là, ceux qui sont en place depuis 20, 30, 40 ans,
Désormais, la situation semble incontrôlable. À Berlin, les opposants veulent des changements radicaux et ils réclament des têtes. Au même moment, la Tchécoslovaquie ouvre sa frontière à l'ouest. La spirale infernale continue pour ce qui reste du communisme en Allemagne de l'Est. C'est dans ce contexte très tendu que le comité central se réunit le 8 novembre à la demande d'Egon Krenz pour mettre au point un décret sur les voyages. Dehors, les manifestants réclament du changement. La réunion se poursuit jusqu'au jeudi 9 novembre, en milieu de journée. Le texte est finalement voté à la va-vite et autorise les voyages à l'étranger sans condition. Le ver est dans le fruit. 19h30, Egon Krenz demande à Günther Schabowski, qui n'a pas assisté aux réunions, de tenir une conférence de presse pour annoncer que désormais, chaque citoyen est-allemand peut voyager hors des frontières du pacte de Varsovie. Mais pris de court par un décret qu'il ne connaît pas et muni seulement du communiqué de presse, l'ineffable Schabowski commet la bourde qui va faire basculer le destin et le mur avec.
On m'a informé qu'un communiqué a été distribué aujourd'hui. Vous devez être en sa possession. Donc des voyages privés vers l'étranger peuvent être demandés, sans condition, sans donner les raisons du voyage ou avoir des relations familiales. Les accords seront donnés dans un bref délai. Des sorties du pays peuvent être effectuées par toutes les frontières de RDA vers la RFA.
Est-ce aussi valable pour Berlin-Ouest ?
Oui. Les sorties permanentes peuvent avoir lieu par tous les points frontaliers avec la RFA, ou bien par Berlin-Ouest.
Quand est-ce que ça rentre en vigueur ?
À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite, immédiatement.
Le mousseux et les larmes coulaient à flot. Ambiance folle pour une nuit historique.
La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique, mais aussi une libération des esprits.
Around me, scores of people have arrived, being held back by the police to watch this first incision into the Berlin Wall.
Et du haut du beffroi de l'hôtel de ville sonne la cloche de la liberté.
Quand est-ce que ça rentre en vigueur ?
À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite.
Immédiatement, voilà comment l'histoire bredouille et nous prépare en même temps et sans le savoir l'événement politique et géopolitique le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est 20h, la compréhension est totale. Il flotte dans l'air comme une odeur de vacillement, d'excitation, enfin de quelque chose qu'il faut avoir vécu pour le décrire. Les gens sortent dans la rue, la foule scande « Wir sind das Volk ». Nous sommes le peuple, oui, ils sont le peuple, et ce soir, ils veulent la liberté. 23h54, point de passage de Checkpoint Charlie, Berlin, pluie fine, nuit froide. Des milliers de personnes se pressent des deux côtés du mur. Les uns vont le franchir, les autres vont les accueillir. Le reste appartient aux images, aux photos. On les a tous en tête. Sans consigne précise, livrés à eux-mêmes, les gardes-frontières de Berlin-Est ouvrent le mur. Alors ils passent, hommes, femmes, enfants, trabants, adieu Stasi, cachot, photo, micro, vive la liberté.
Gewiss, dort gibt es keine Seine, und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen bliebe. Von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder. Und dabei blüht auch doch die Liebe. In Göttingen, mir scheint wir sind weit schlechter kennen. In puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Seine und doch den Wald nicht von Vincennes. Doch sah ich nur so schöne Rosen in Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche wie bei Verlaine, das Silberbleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, dann weiß es, Lächeln ist gescheiter, es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, von Göttingen.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Bonjour Michel Meyer.
Bonjour.
Je sais que vous connaissez un certain nombre des protagonistes de cette histoire extraordinaire qu'on vient de raconter.
Sans mérite, correspondant à Bonn, ben petite oui, ville en Allemagne de John Le Carré, des espions... Portugalov, qui a joué un rôle tout à fait considérable pour la mise en place de la conspiration Lutsch, qui a fait une proposition au conseiller diplomatique de Helmut Kohl le 26 novembre, tout de suite après la chute du mur de Berlin, où on proposait en quelque sorte une neutralisation de l'Allemagne dans un contexte de réunification. C'était la proposition soviétique. Et cela dans la fameuse Europe, disons, européenne qu'imaginait Gorbatchev. C'est fondamental de connaître les acteurs, y compris l'interlocuteur de Portugalov, qui était un guerrier froid, oriental, comme moi j'étais à l'époque, guerre froide, un guerrier froid occidental, mais dans un contexte de liberté qui n'avait rien à voir avec l'exercice du pouvoir et du métier des correspondants des Izvestia, ou du correspondant des Izvestia, qui était le maître espion et le maître manipulateur Portugalov.
Et malgré tout, malgré votre connaissance de l'Allemagne, malgré le fait que vous connaissez certains protagonistes, je crois que vous avez été vous aussi complètement surpris par ce qui s'est passé.
Je n'ai rien compris. J'ai considéré la gloriole et le triomphalisme occidental comme excessif, parce que l'Occident n'avait rien fait, sauf contenir les Russes en Europe pour mériter une telle aubaine. Donc, il s'était passé quelque chose qui incombait à une action spécifique à l'Est. Oui. Et c'est bien entendu à cela que je me suis attaché, bénéficiant du privilège de connaître les lieux, de connaître les protagonistes et de pouvoir les interpeller de façon presque intime.
Alors, avant de poursuivre cet entretien, Michel Meyer, on va écouter ensemble le reportage de Gellor van Wimersch, qui est allé à Berlin le week-end dernier, oui, c'est tout récent, à la rencontre de Berlinois, et notamment deux personnes qui ont connu Berlin avec et sans le mur.
Berlin, ciel gris et pluvieux. Nous sommes dans le quartier du Mitte, et à la sortie du métro, s'étalent des restes du mur et son mémorial.
Ça, c'est l'ancien hôpital Saint-Lazare. Là, il y avait les urgences. Et c'est là que j'habitais, juste à côté. Ici, c'était l'ouest. Il y a le trottoir. Et puis le mur. Le trottoir, c'était encore à l'ouest. J'ai connu le mur du premier jour de sa construction jusqu'à la chute du mur.
Ursula Malchaud a 79 ans. Elle vivait côté ouest, juste en face du mur, à 20 mètres seulement. En première ligne, elle se rappelle les coups de feu, les tentatives désespérées pour passer à l'ouest, la peur et bien sûr la séparation.
Dans ma jeunesse, Berlin était tout un, c'était une ville. Puis on a été séparés. On ne pouvait pas voir sa famille, aller aux enterrements. On ne pouvait pas assister aux naissances, voir grandir les petits en face. Il y avait la peur d'habiter ici, peur des coups des feux. Et maintenant, Berlin, c'est génial. Je suis une Berlinoise.
Est-ce que ce Berlin d'aujourd'hui ressemble à celui que vous auriez pu imaginer à la chute du mur?
À 80%, oui. Je dis toujours, maintenant, quand je vais à l'est de Berlin, je vais de l'autre côté, autrement dit, chez les gens de l'est. Nous devons être tous égaux. Les salaires doivent être au même niveau à l'est et à l'ouest. Et ce n'est toujours pas le cas. Donc tant qu'on n'y est pas, la réunification n'est pas faite. Je pense qu'on les a trompés quand même.
Comment vous regardiez à l'époque le communisme?
Tout n'était pas mauvais. Le système de sécurité sociale était meilleur. Les offres pour la petite enfance étaient meilleures. Ça fait partie des choses où je pense qu'on aurait pu les reprendre chez nous.
Vous êtes de l'Ouest, mais vous êtes un tout petit peu nostalgique, comme on dit, nostalgique, la nostalgie de l'Est.
Je sais être objective. Il y avait certes une certaine forme de surveillance, mais ici chez nous, c'est, si tu ne t'occupes pas de toi-même, personne ne t'aidera. Et c'est pas mieux, non? Il y a beaucoup qui restent sur le bord du chemin.
On passe le message à Angela Merkel.
Allez-y, je vous en prie.
Detlef Mattes a 46 ans. C'est un ancien habitant de RDA. Et dans sa jeunesse est-allemande, il photographie le mur, zone militaire interdite. Arrêté par la Stasi, il passera 6 semaines en détention avant de gagner l'Ouest, un an avant la chute du mur, en 1988.
Il était interdit de faire des photos côté Est.
C'est pourtant ce que vous faisiez.
Ich habe es gemacht, weil ich es wissen wollte, wie es dahinter aussieht.
Oui, je l'ai fait parce que je voulais savoir à quoi ça ressemble, parce que je voulais absolument aller à Berlin Ouest.
Na, die Mauer selbst hat mich nicht fasziniert. Was
le mur en tant que tel m'a pas fasziné. Ce qui m'a fasziné, c'était le Berlin Ouest qui était en face.
Na, also was ich in West-Berlin gesehen habe, ist, dass West-Berlin ziemlich bunt war.
Berlin Est était plutôt gris et Berlin Ouest était plutôt bariolé, coloré.
Ja, der Staat letztlich darüber
bestimmt. En Allemagne de l'Est, c'était l'État qui déterminait comment la vie de l'individu allait se dérouler.
Abzulaufen hat. Sie haben sich ja abhängig davon gemacht.
Ils étaient dépendants, du coup.
Und wenn sie nicht
tant qu'ils fermaient leur gueule, leur vie était facile, sans souci.
Gerne die Mauer zurück,
parfois, je me dis, j'aimerais bien qu'on réérige le mur, mais avec moi côté ouest, bien entendu.
Ich sehe das immer noch so, ja. Und es kommt mir auch manchmal so vor,
quand je vais à l'est, j'ai même Osten l'impression parfois que ça sent différemment.
Vous dites encore Berlin-Est. Ich sage immer noch
oui, moi je dis toujours Berlin-Est et Berlin-Ouest, oui.
Dieser Eingang zum S-Bahnhof, Nordbahnhof.
Voilà, cette entrée de la gare, là où les gens entrent, autrefois, c'était pas possible du tout. C'était muré. C'était une gare fantôme.
On dit par exemple en France que le Berlin, d'après la chute du mur, était devenu la ville de tous les possibles. Est-ce que c'est encore vrai, ça, pour vous?
Das sehe ich so nicht. Nein, nein. Also Berlin hat viele Probleme.
Non, et Berlin a beaucoup de problèmes économiques. Elle est tout proche de la banqueroute. Notre maire, il a dit autrefois, Berlin est pauvre mais sexy. C'est pas vraiment mon point de vue.
Et beaucoup de chômage.
Das ist eine Konsequenz.
Oui, c'est une conséquence de la mauvaise gestion, oui.
Berlin hat viele Flächen an die Privatwirtschaft verkauft.
La ville de Berlin a vendu beaucoup de terrains qui autrefois étaient publics à des investisseurs privés. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller.
Nun, Berlin hat kein Geld.
Berlin n'a pas d'argent et vend ses bijoux de famille.
Privatisation de l'espace public.
Ja, meines Erachtens nach aufgegeben hat.
C'est le signe que la politique s'est soumise au diktat de l'économie.
Entre le socialisme, le communisme même de l'époque de la RDA que vous avez connu, et aujourd'hui par exemple, les politiques libérales européennes ou les politiques d'austérité façon allemande appliquées par Angela Merkel. Vous choisissez quoi?
Beides nicht.
Rien de tout cela. Personne ne réagit par rapport à ça. La question est de savoir pourquoi c'est comme ça.
Reportage de Gellor van Wimersch, traduction Jörg Stikan. Michel Meyer, vous savez, le Berlin d'aujourd'hui est devenu une ville magnétique. Je pense notamment à l'ambiance qu'on peut trouver dans un quartier comme Prenzlauer Berg, hein, qui est un très beau quartier bobo, sympa, street art et compagnie. C'est une ville mode, mais ça n'est pas non plus une ville monde.
C'est une ville mode parce que c'est une ville expérimentale, c'est une ville laboratoire pour tout ce qui est neuf, pour tout ce qui est nouveau. C'est une ville pétillante, paradoxalement, alors que la Germanie a une réputation plutôt teutonisante. Ouais. Ce n'est absolument pas le cas. C'est absolument léger et c'est très brillant. Mais ce n'est pas une ville monde parce que la masse spécifique ne suffit pas et ça ne peut pas être comparé à Paris, ni à New York, ni à Londres. Voilà.
Alors, on revient à l'époque considérée, donc, lorsqu'il y avait le mur, il faut rappeler hein, que le mur encerclait en fait Berlin-Ouest, il n'était pas fait pour empêcher les gens qui étaient dedans d'en sortir, mais pour empêcher les gens qui étaient dehors d'y venir. En gros, c'est ça. Hein.
En gros, c'est ça.
C'est
tout
étonnant.
Tout en étant une vitrine, je parle de Berlin-Ouest, ouais. Pour le monde entier, subventionné par la République fédérale allemande, donc Bonn, de façon à ce que Berlin-Ouest soit une ville phare et une tentation par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Il faut de l'Est. Et il faut bien comprendre à cet égard que les Allemands de l'Est vivaient de façon schizophrénique. Pourquoi ? Parce que la journée, ils étaient dans leur monde gris que l'on a évoqué, et dès le soir, avant la chute du mur, ils vivaient au diapason du monde occidental et de ses tentations. Autrement dit, le consumérisme. Autrement dit, la modernité occidentale qu'ils percevaient à travers les médias et à travers la télévision. Au point que les habitants des vallées qui n'avaient pas de rémetteur, vous savez comment on les appelait ? On les appelait les vallées de ceux qui ignorent tout. On les prenait pour les imbéciles de la nation parce qu'ils n'avaient pas le privilège de vivre au diapason occidental. Cet état de schizophrénie, bien entendu, a joué un rôle tout à fait considérable pour aimer ou pas le consumérisme, aimer ou pas l'Ouest, et forger une identité très spécifique, qui a été celle des Allemands de l'Est, qui détestaient leurs dirigeants staliniens, qu'ils qualifiaient de têtes de béton, sans pour autant, à part les jeunes et leur fascination pour le rock, croire tout ce que l'on disait du mirage occidental, qui était néanmoins vu de façon critique par des religieux, les pasteurs luthériens, oui. Protestants, et avec la mentalité protestante, qui en faisaient des écolo-pacifistes avant l'heure, et des gens influencés déjà par les manifestations pacifistes monstres d'Allemagne de l'Ouest, desquelles ils étaient interdits à l'Est, alors que la préoccupation centrale était la même, à savoir... Les deux Allemagnes sont les champs de bataille potentiels de la déflagration nucléaire de cette troisième guerre mondiale menaçante. Et cette communauté de sensations et de ressentis a joué un rôle absolument fondamental pour que s'éveille une conscience entre les deux Allemagnes qui a fait que les liens ne se sont pas brisés au fil du temps. Malgré tout, et indépendamment du fait que c'est vrai, lorsque le mur s'est ouvert, le consumérisme ayant quand même contaminé beaucoup de monde, les Allemands de l'Est qui sont arrivés à Berlin-Est se sont précipités vers quoi ? Vers les oranges et les bananes, car c'était des fruits interdits de l'autre côté du mur. Voilà.
Réflexe humain. Quand le plan Lutsch a-t-il été vraiment lancé ? On rappelle ce plan qui avait pour but de déstabiliser
les Soviétiques. Au niveau du KGB et au niveau du comité central, disposaient d'une équipe de germanistes qui étaient les meilleurs du monde à l'époque. Ils connaissaient les zones érogènes de l'Allemagne, mieux que n'importe quel autre germaniste dans le monde. Et ces gens-là ont imaginé, à la demande du Politburo de Moscou, une alternative à l'équipe des têtes de béton de Berlin-Est. Et bien entendu, ils ont choisi, comme ça a été très bien dit et très bien relaté, Marcus Wolf et Modrow. Ils étaient prêts. Une réunion avait eu lieu en juin 87.
Donc deux ans avant.
À Dresden. Mmh. L'opération suivait son cours. Ils ont été pris de vitesse par l'apparatchik parfait qu'était Krenz, qui n'a pas voulu abandonner le pouvoir, qui a surgi alors que les Soviétiques avaient imaginé qu'il allait laisser la place plus vite que ça. Krenz a néanmoins un mérite. Il a évité, en ne lançant pas les Vopo contre la foule à Leipzig à la mi-octobre, il a évité un Tiananmen est-allemand qui, si il avait eu lieu, aurait changé complètement le reste du film. Donc, le plan Lutsch n'a pas pu être mis en œuvre et cette vacance d'un pouvoir alternatif a permis à Krenz de rester au pouvoir avec sa nullité et le cafouillage dramatique et terminal qui a fait que, en donnant des informations incomplètes à ce pauvre Chabowski, Chabowski a oublié de dire que Berlin-Est avait obtenu de l'argent de Bonn pour financer l'ouverture de nouveaux points de passage dans la ligne de démarcation interallemande, et que, bien entendu, ça allait d'abord être construit avant d'être ouvert dans 3 mois. Alors, il a dit tout de suite, mais voilà.
Et le mur est tombé. À l'époque, on écoutait, entre autres, Michel Meyer, on va écouter ensemble, pour se rappeler des souvenirs, Roy Orbison, qui chantait You Got It en 1989, bien sûr.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you got it.
Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
J'ai dans les mains le livre de Michel Meyer, dont je vous rappelle le titre « Histoire secrète de la chute du mur de Berlin » chez Odile Jacob. J'en fais pas simplement la pub parce que vous êtes là, mais c'est parce que c'est vraiment bien écrit. C'est écrit comme un polar, ça pourrait même aussi être une... Il y a une théâtralité là-dedans. Non, mais c'est vrai. Et donc c'est Lutsch. Alors Lutsch, on a vu, on l'a raconté, on peut le lire dans votre livre, on va passer à autre chose. Il y a une question qui n'est pas taboue, l'Allemagne de l'Ouest a acheté la fin du communisme. Elle l'a financé quelque part.
Oui, attendez. L'Allemagne de l'Est a-t-elle acheté la RDA à partir du moment où la chute du mur avait précipité le mouvement et impliqué que l'on règle la question? Eh bien, l'argent a joué un rôle tout à fait considérable.
La réponse est oui.
Et en trois occasions que je vais rapidement raconter. La première occasion, c'est début avril 89. Eh bien, il y a deux émissaires de Kohl qui se présentent devant le Premier ministre hongrois à Budapest. Ils sont bien entendu convoqués par le Premier ministre hongrois. Que mettent-ils sur la table? 1 milliard de Deutschmark. 1 milliard de Deutschmark qui permettront au Premier ministre hongrois, début mai, comme on l'a raconté dans ce remarquable sujet d'évocation, première...
Brèche
dans la ligne de démarcation, c'est-à-dire le rideau de fer. Ça, premier exemple. Relation de cause à effet. Milke est fou furieux. Honecker de la même manière.
Alors, oui,
et quels sont qui sont les émissaires? C'est le patron de la Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, qui sera assassiné en novembre 89 en lien avec cela. Bon, on y reviendra une autre fois.
Premier point.
Premier point. Deuxième point, l'autre émissaire... C'est le propre conseiller diplomatique de M. Kohl, qui s'appelle Horst Telschick, le même qui a reçu Portugalov lorsqu'il lui a proposé le plan de la maison commune européenne, etc. etc. Donc, un milliard. Durant l'hiver 89-90, qui a sauvé la Russie de la famine, car il n'y avait plus d'alimentation interactive entre les républiques soviétiques?
Helmut Kohl.
Helmut Kohl. Voilà. Et son ministre de l'Agriculture, 1 milliard. Et puis, dans le Caucase, lorsqu'il s'est agi de décrocher la libéralisation de l'Allemagne de l'Est et son intégration dans l'OTAN, lors du sommet Gorbatchev-Kohl, 16 milliards qui ont été donnés et promis à l'Union soviétique. Au total, summa summarum, comme on dit en allemand, eh bien, même si c'est du latin, eh bien, c'est 55 milliards de Deutschmark, le calcul a été fait, qui ont été donnés et concédés à l'Allemagne de l'Est.
Pourquoi? La question est pourquoi maintenant?
Parce que pour tout simplement contrôler l'Allemagne de l'Est, se comporter de manière patriotique et souveraine, ce qui a été possible à partir d'octobre 1990. 55 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'époque, l'Allemagne a consenti à offrir une semaine de travail pour le PIB d'une semaine à l'Allemagne de l'Est. Voilà, voilà ce qu'il faut dire. Et par la suite, lorsqu'il s'est agi pour l'Allemagne d'absorber l'Allemagne de l'Est, comme un boa absorbe une mangouste, eh bien, il s'est agi de refaire l'ensemble du dispositif et du système industriel et économique allemand. Ce qui a été un avantage considérable, alors que les voisins de l'Allemagne, dont les Français, espéraient qu'ils en souffrent et qu'ils en meurent. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, si l'Allemagne est aujourd'hui ce qu'elle est en termes de puissance économique, c'est parce qu'elle a relevé un défi dont se sont privés un certain nombre de leurs voisins, et notamment ceux que l'on appelle aujourd'hui les pays du Club Med.
Alors, est-ce qu'on est entré avec la chute du mur dans un monde plus dangereux qu'avant le mur? Parce qu'avant le mur, c'était équilibre de la terreur. Bon, mais chacun savait bien qu'on gardait l'équilibre. On n'allait pas s'envoyer des ogives.
Je vous réponds en disant que le mur de Berlin n'a pas disparu, qu'il s'est déplacé de 1200 km plus à l'est, à travers un mur systémique et idéologique, au cœur de l'Ukraine. La question que soulèvent les problématiques de l'Ukraine dans le monde multipolaire actuel sont simples. Ou il y en a une qui est très simple. Que fait-on de la Russie? La Russie de Poutine, ce grand blessé traumatisé par la chute de l'Union soviétique durant le XXe siècle. Ça relève d'une thérapie et pas forcément de gesticulation. Mais que fait-on pour positionner et trouver un rôle à la Russie qui s'est réfugiée dans une espèce de mythe eurasien?
Mais pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous posez la question que fait-on de la Russie? Est-ce que ça veut dire que s'il y a danger dans le monde,
ça veut dire que le danger est lié au fait que l'on continue à projeter une image de l'Europe qui devrait être une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Non! L'Europe, c'est de l'Atlantique au Pacifique maintenant. Mais il y a les Russes et leur confrontation complexe avec la Chine. La Chine qui a pris des mesures dénatalistes pendant un certain nombre d'années et qui a rompu avec cette politique. Ça veut dire qu'ils vont devoir s'étendre vers le nord. Les Russes ont considéré cette politique et ce changement politique chinois comme un signal de très mauvais augure. Ce monde-là va redevenir plus dangereux et le problème russe n'est pas résolu. Quelle géopolitique pour l'Europe avec ou sans la Russie? On ne peut pas évacuer les Russes de l'espace européen. Dans un contexte où, il faut le dire, du côté occidental, on est quand même arrivé à pousser l'OTAN jusqu'aux portes de l'Ukraine, avec les pays baltes et la Pologne. Comment éviter que dans la tête des Russes, ça leur rappelle des bêtises que faisait Khrouchtchev dans les années...
À Cuba, notamment.
Mmh. Dans le champ clos du voisin. Mmh. Ou à proximité du champ clos du voisin. Le monde multipolaire est devenu éminemment dangereux. D'autant que, à ce que je sache, ces puissances, à l'est comme à l'ouest, restent nucléaires.
C'est vrai. Et alors, il y a aussi quand même un élément dont vous ne m'avez pas parlé, qui est le danger islamiste. Je ne dis, pas de l'islam, hein, je dis islamiste, c'est-à-dire l'islam radical politique. Et le 11 septembre...
Qui nous transporte au Proche-Orient, sujet sur lequel je ne m'étendrai pas, car il est d'une actualité brûlante, dans un contexte où le silence soviétique est assez éloquent par rapport à ce qui s'y fait, sauf sur la Syrie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème caucasien énorme, un problème que Poutine a essayé d'extirper en évoquant le fait qu'il poursuivrait ces islamistes caucasiens, notamment les Tchétchènes, jusque dans certains lieux que je ne nommerai pas.
Michel Meyer, il me reste à vous remercier pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés, pour la passion qui vous anime dès lors que vous parlez de ça. Vous êtes habité, hein, c'est bien continué.
Ça a été ma vie.
Et ben, ne changez rien.
Durant un certain nombre d'années.
Au revoir, merci, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute du mur de Berlin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain donc, la fiction consacrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle aussi à la chute du mur de Berlin à travers l'histoire d'un Berlinois de l'Est qui a vécu l'événement dans sa cellule et qui s'est donc retrouvé libre du jour au lendemain. Nous en parlerons également avec notre invité demain, Matthias Fekl, le dernier ministre de l'Intérieur du quinquennat Hollande. Vous me direz, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bien simplement, il vivait à Berlin quand le mur est tombé et il avait 12 ans. 12 ans, l'âge où on se souvient de tout. Voilà, merci à Tristan Gratalan qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Philippe Pirard et Philippe Reltien. Réalisation, Fabrice Laigle.